Gloire à Dieu. C'est toujours aussi une joie pour moi de me retrouver parmi vous et de pouvoir ouvrir la parole du Seigneur et la méditer avec vous. Je vous propose ce matin une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Jean, chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Amen. » Seigneur, merci pour cette parole qui est sortie de ta bouche et que nous voulons serrer précieusement dans notre cœur. Merci de ces moments tellement bénéfiques pour nos âmes, où nous sommes dans la communion fraternelle et nous sommes aussi placés sous ton regard. Seigneur, je te prie du plus profond de moi-même que ta parole puisse pénétrer nos cœurs. Grave-la en nous et que ton esprit nous aide quotidiennement à la mettre en pratique. Seigneur, nous aimons ta parole parce que ta parole est la vérité. Et je te prie avec mes frères et sœurs que tu nous conduises toujours plus près de toi. Nous savons que bientôt tu vas venir et dans ces temps que nous vivons, nous avons plus que jamais besoin de ton secours et de l'action de ton esprit. Nous comptons sur toi et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Certainement vous vous êtes aperçu que depuis bien longtemps, des chrétiens de tous âges, eh bien, ont arboré sur eux des signes externes de leur foi qu'ils professent. C'est ainsi que quelques-uns ont placé sur la boutonnière de leur veste une petite croix argentée ou dorée. D'autres l'ont placé en pendatif autour de leur cou, attaché par une petite chaînette. Il y en a d'autres qui mettent un petit poisson ictus sur le pare-choc de leur voiture ou sur le coffre arrière. D'autres encore placent sur leur thorax eh bien, un t-shirt avec une inscription biblique, quelquefois même uniquement le nom de Jésus. Et d'autres encore plus stupides sont arrivés à tatouer sur leur peau le nom du Seigneur également, ou un signe tel que la croix. Mais quels que soient ces signes extérieurs, j'aimerais vous dire ce matin qu'ils ne représentent absolument rien ni aucune valeur aux yeux de l'Éternel. Mais il y a des signes internes qui, eux, ne trompent pas et qui doivent être la caractéristique de tous les véritables chrétiens consacrés. Et dans cette parole que le Seigneur a prononcée, dans une circonstance très particulière, car comme le premier verset que nous avons lu l'indique, Judas vient de quitter le groupe des apôtres. Et Jésus s'adresse donc avec beaucoup d'amour, de miséricorde, je dirais aussi de compassion aux 11 qui sont restés, et il va placer devant eux, non seulement par son exemple, mais aussi par des préceptes qu'il établit, eh bien, les trois caractéristiques essentielles qui doivent être le partage de tout véritable chrétien. Alors, je vais vous les citer, comme ça, au fur et à mesure de l'avancement dans ce message, vous pourrez déterminer où nous en sommes. La première caractéristique de caractéristique du chrétien, c'est une préoccupation constante, permanente, de la gloire de Dieu. La deuxième caractéristique, c'est un amour parfait que seulement l'Esprit de Dieu est capable de répandre dans un cœur. Et la troisième caractéristique, c'est une loyauté indéfectible à notre Seigneur. Alors je vais reprendre ces points pour essayer de les développer un à un. Le chrétien engagé se préoccupe en premier lieu de la gloire de son Seigneur. Il ne cherche pas une gloire personnelle. Il ne cherche pas une certaine célébrité. Peut-être il peut arriver à connaître une certaine réputation, avoir aussi une certaine célébrité, mais ce n'est pas le but essentiel de sa vie. Ce qu'il cherche avant tout, c'est que Dieu, que le Seigneur, soit élevé, soit honoré et soit glorifié. Le vrai croyant ne se soucie pas de sa propre gloire. Il n'est pas à l'affût de ce que je viens de citer et il ne grimpe pas non plus à l'échelle sociale pour en retirer un certain bénéfice ou certain honneur. Cela ne veut pas dire pour autant, frères et sœurs, j'espère que vous me comprenez bien, qu'un chrétien ne peut pas s'élever dans l'échelle sociale. Et tant mieux s'il y parvient. Nous avons dans la Bible l'exemple d'hommes qui ont réussi, non seulement dans leur vie, mais leur vie, à un tel point qu'ils sont devenus le bras droit des autorités politiques de leur époque. Je fais mention là de Joseph. Et nous savons que cet homme est devenu en quelque sorte le bras droit de Pharaon. Moïse lui-même, et pourtant, il a refusé cette gloire qui était la sienne. Il avait une instruction exceptionnelle, il avait été élevé pour devenir lui-même Pharaon, mais à un moment donné, il a dû faire un choix. Et il a compris que cette voie sur laquelle il était ne pouvait pas aboutir à la gloire de Dieu. Alors il a choisi quoi ? L'opprobre de Christ, selon le témoignage de la Bible. Il a choisi l'opprobre de ce peuple humilié, esclave, mais nous savons que la gloire de Dieu a été manifestée au travers de sa vie. Prenons maintenant cette parole que Jésus prononce à ses disciples. Quand il dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Alors je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'il y a comme perspective devant ses yeux? Il y a la croix. Quel lien peut-il y avoir entre la croix, qui est symbole de honte, d'ignominie, de souffrance, et la notion de gloire? Quel rapport il peut y avoir entre ces deux choses-là? Eh bien, à y réfléchir, et puis chacun d'entre nous l'a exprimé ce matin du plus profond de nous-mêmes, nous avons pu reconnaître que si nous sommes là, c'est grâce à l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur. Dans ce sens, la croix, elle est glorieuse. Peut-être que pour le monde, la croix, c'est un scandale. La croix, c'est une stupidité. La croix, c'est une chose qu'on devrait rejeter. Mais pour tous les véritables chrétiens, nous savons que la croix, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qui a écrasé la puissance des ténèbres et nous a délivrés du joug du péché. De telle sorte que nous-mêmes, maintenant à notre tour, nous pouvons nous glorifier de la croix de Jésus. C'est de cette manière-là que parlait l'apôtre Paul quand il disait « Le monde est crucifié pour moi et moi, je suis crucifié par rapport au monde et si je dois me glorifier de quelque chose » et pourtant, il avait de nombreuses raisons de se glorifier, lui, en tant qu'homme religieux qui était impeccable dans son obéissance à sa doctrine. Cet homme qui avait le droit de se glorifier a reconnu que tout cela, ce n'était que de la boue. Et il a dit, si je veux me glorifier maintenant, c'est uniquement de la croix de Christ. La gloire, il l'a trouvé aussi dans la croix de Christ. Donc, je dirais, comment est-ce que Jésus a pu dire « Le Fils de l'homme a été glorifié à cette heure particulière ?» Eh bien, oui, parce qu'il est le moyen par lequel le plan de Dieu, le plan rédempteur, s'est accompli. Et ça, c'est un sujet de gloire. Et Jésus en est conscient. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de peine, de tristesse qui accable son cœur à cette heure suprême. D'ailleurs, c'est presque en même temps qu'il a dit à ses disciples, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Vous voyez, la croix n'était pas pour lui simplement quelque chose d'accablant. Il n'a pas pensé à la souffrance à ce moment-là, mais il a pensé seulement à la gloire, parce qu'après la croix, il y a la gloire. Mais les chrétiens, quelquefois, ont inversé les choses. Et ils ont voulu la gloire sans passer par la croix. Et je dois reconnaître que parfois, dans certaines circonstances, ça a été aussi mon cas. Cependant, la parole de Dieu nous reprend et le Seigneur est toujours là pour nous rappeler que nous devons le suivre sur le chemin de la croix, car si nous ne connaissons pas cette voie directe qui conduit à la gloire, eh bien, nous passerons à côté du but essentiel pour lequel le Seigneur nous a appelés. En ce sens, puisque Jésus a accompli en sa personne sur la croix le plan rédempteur, je dirais que le sujet de gloire pour nous tous, mes chers frères et sœurs, c'est aussi de proclamer le merveilleux message de l'Évangile, de proclamer le merveilleux message de la croix. Et quand nous faisons cela, eh bien, Dieu est glorifié. Mais ici, Jésus a insisté et il a dit, le Fils de l'homme a été glorifié. Mais Dieu a été glorifié en lui. Là aussi, ça nous pousse à réfléchir. Pourquoi est-ce donc que Dieu est glorifié au travers de la croix, de la mort de son Fils sur la croix? Ah, je crois qu'il n'est pas difficile de comprendre que là, sur la croix, la justice de Dieu apparaît d'une manière exceptionnelle. Nous connaissons tous ce verset de la Bible qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Comment est-ce que Dieu pouvait rester juste en pardonnant le pécheur sans altérer la loi de Dieu? Puisque le péché, c'est la transgression de la loi, la transgression de la loi nous conduit à la mort. Comment Dieu devait-il rester juste? Eh bien, en offrant sa propre personne, au travers de la personne de Christ. Parce que pour moi, Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes en une. Nous insistons là-dessus. Et en quelque sorte, Jésus s'est chargé, puis nous le savons, parce que ça c'est, je dirais, élémentaire dans le domaine de la prédication de l'Évangile. Jésus s'est chargé de notre péché. Il a payé à notre place. Et c'est vrai que parce qu'il est mort à notre place, Dieu est resté juste et il a pardonné le péché, le pécheur. Mais nous voyons aussi à la croix que la sainteté de Dieu est proclamée. C'est la raison pour laquelle il est dit ici, Dieu est glorifié. Pourquoi la sainteté de Dieu est proclamée? Savez-vous ce que le prophète Habacuc a écrit au chapitre 1er, au verset 13, si je ne me trompe? Il parle à Dieu et il dit, « Oh Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir l'iniquité. » Et qu'est-ce qui s'est passé là, sur le mont du Calvaire? Alors que Jésus était sur la croix, à notre place, chargé de nos péchés, le regard du Père s'est détourné de son propre Fils. C'est ce qui a poussé Jésus à faire ce cri que nous connaissons et prononcer ces paroles qui se trouvent dans l'Évangile. « Eli, Eli, lama, sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Et donc Jésus qui était couvert à ce moment-là de nos péchés a subi cette séparation d'avec le Père momentanément pour que nous, nous n'ayons plus jamais à la subir. Quelle grâce! Et Dieu est resté saint parce que le péché a trouvé tout simplement la juste condamnation. Là, Dieu a été glorifié d'une façon formidable. Et je dirais, en troisième point, il a prouvé, le Seigneur, la fidélité de Dieu. Et en cela, eh bien, le Père aussi est glorifié. Pourquoi la fidélité de Dieu? Eh bien, parce que si nous remontons au commencement, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse, au moment où il y a eu la chute, où il y a eu le péché, que l'homme et la femme sont tombés dans la désobéissance, Dieu est venu à leur rencontre. Et il est venu avec une promesse. Et il a dit à la femme que sa postérité écraserait la tête du serpent ancien. Et là, sur la croix, malgré les siècles qui ont passé, malgré le temps qui s'est écoulé, malgré le nombre d'années qui sont passées, Dieu est là pour prouver que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Et la fidélité de Dieu éclate. Justice, sainteté et fidélité de Dieu apparaissent sur la croix. Je comprends pourquoi Jésus, par son exemple, nous montre qu'il ne faut chercher qu'une seule chose, à glorifier Dieu. Mais ce qui est curieux, c'est qu'entre le Fils et le Père, mutuellement, eh bien, ils cherchent à se glorifier l'un l'autre. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Et puis, il y a le troisième point, juste dans ce domaine particulier, où il est dit ceci, « Dieu aussi le glorifiera en lui-même. » Il s'agit donc du Fils. Il le glorifiera. Ah, ça, c'est le futur. Vous voyez, Dieu ne s'arrête pas uniquement à la croix. La croix était une absolue nécessité. Mais le plan rédempteur de Dieu va au-delà de la croix. Parce qu'après la croix, eh bien, il y a la résurrection. Après la résurrection, il y a l'ascension. Après l'ascension, il y a la glorification. Ce qui explique que le jour de la Pentecôte, comme Christ a été glorifié, le Saint-Esprit a été répandu sur la terre. Mais après la Pentecôte, il y a une espérance qui se trouve dans le cœur de tous les chrétiens, c'est que Jésus revient bientôt. Et nous devons avoir cela dans le fond de notre cœur. Et la promesse de Dieu, du retour de son Fils bien-aimé, ici-bas sur la terre, est une glorieuse réalité. C'est la raison pour laquelle, oui, c'est vrai, la gloire de Dieu a éclaté sur la croix, Christ a été glorifié, mais au futur, il est dit, et il sera glorifié, parce que son retour n'a pas encore eu lieu, mais il sera bientôt là. Et ça, c'est un sujet de joie immense. Et quand on pense à tout cela, alors nous n'avons qu'un seul désir dans notre cœur, c'est de vivre pour lui, par lui. Jamais aucun d'entre nous, nous n'atteindrons le niveau que la Bible met en évidence et qui devrait être celui dans lequel nous devrions vivre constamment. Mais si nous étions livrés à nous-mêmes, pauvres de nous, seulement nous avons le secours de l'Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, oui, nous pouvons fixer notre regard sur le Seigneur et n'avoir qu'un seul désir. Eh bien, qu'il prenne toute la place dans notre cœur et dans notre vie. Nous savons tous quelles sont nos défaillances, mais nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Parce qu'il est écrit quelque part dans la parole de Dieu que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il est fidèle pour la rendre parfaite. Et tel il est, tel aussi un jour nous serons. Je passe à la deuxième caractéristique. Un amour parfait. Et là, il faut que nous nous penchions assez sur cette question-là, parce que l'Église a souvent mal compris ce qu'est l'amour de Dieu. Je remarque d'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, une expression particulière dans la bouche du Seigneur, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je voudrais, juste avant de parler de l'amour de Dieu, m'attarder un peu sur cette expression-là. Vous voyez, Jésus dit à ses disciples, ce que j'ai dit aux Juifs, je vous le dis aussi. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Mais j'aimerais vous faire constater un point. Juste au chapitre 7 de l'évangile de Jean, puis Vous pouvez noter cela dans votre cœur, au chapitre 8 et au verset 21. Il dit, le Seigneur Jésus, aux Juifs, « Vous êtes de ce monde, moi je suis d'en haut. » Et il dit, c'est la raison pour laquelle vous mourrez dans vos péchés. Ce sont des gens religieux. Mais il dit, vous mourrez dans vos péchés. Quand il s'adresse à ses disciples, il reprend le commencement de ce qu'il a dit aux Juifs. Et il dit, bientôt, je ne serai plus avec vous. Vous me chercherez, vous ne me trouverez plus. Mais avez-vous constaté? Il ne dit pas autre chose. Seulement, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Mais il ne leur dit pas, vous mourrez dans vos péchés. Savez-vous pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce qu'il sait ce qu'il va accomplir en leur faveur. Il sait qu'il va y avoir une action venant d'en haut qui va les rendre capables de le suivre, lui, sur ce chemin qu'il est en train de leur montrer. C'est la raison pour laquelle, à eux, il ne leur dit pas, vous mourrez dans leurs péchés. Moi, je me réjouis beaucoup dans le Seigneur. Malgré mes défaillances, malgré mes faiblesses naturelles, malgré, je n'ai pas honte de le dire, les nombreuses fautes qui peuvent être mon partage pendant mon cheminement terrestre, vous allez dire, c'est curieux quand même que vous parliez de cela. Eh bien, je vous le répète, malgré toutes ces choses, je me réjouis parce que je sais que Dieu a commencé une œuvre et qu'il continuera pour pas que je meure dans le péché, mais que je vive éternellement avec lui. Parce que s'il y en a un qui a le pouvoir de me délivrer de moi-même, eh bien, c'est le Seigneur. Malheureusement, trop de chrétiens comptent sur leur effort personnel, sur leur propre volonté, sur leur décision personnelle, en disant « mais je suis capable ». Nous verrons dans un petit instant que tous ceux qui parlent comme cela sont voués à la chute. Personne n'est capable. Nous sommes tous très pauvre dans le domaine spirituel. Et je comprends de mieux en mieux Paul quand il disait « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Je sais une chose, c'est que par moi-même, je ne peux pas atteindre le but. Mais Christ en moi, il est l'espérance de la gloire. Et quand nous avons une telle espérance, alors nous n'avons pas lieu d'être attristés par les circonstances, quelles qu'elles soient, y compris par le virus, parce que Dieu est au-dessus de tout. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? De mourir? Mais je sais que j'y arrive petit à petit, et très bientôt. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Quand je ferme mes yeux ici-bas sur la terre, c'est pour me présenter devant lui. Mais comment? Non pas avec ma justice, non pas avec justement mes efforts personnels, ma volonté propre, mais comme nous l'avons si bien chanté tout à l'heure, par la grâce du Seigneur. Et cette grâce est ineffable. Alors, je passe maintenant vraiment à la question de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Non seulement le disciple se soucie de la gloire de Dieu, mais il est également rempli de l'amour de Christ. Cette caractéristique, me semble-t-il, est peut-être la plus importante de toutes. Savez-vous pourquoi? Parce que le texte le dit. C'est à cela que le monde reconnaîtra que nous sommes les disciples du Seigneur. Dans beaucoup d'endroits, on pense que le moyen d'être reconnu par le monde, c'est le déploiement de la puissance. D'ailleurs, dans certaines églises, on parle toujours de la puissance. Puissance. Et ce n'est pas cela qui nous fait reconnaître par le monde. Ce n'est pas les miracles. et pourtant ils sont nécessaires. Et Dieu, lui, il est capable de les faire, les miracles. Parce qu'il est toujours le même et qu'il ne change pas. Mais ce qui nous fera reconnaître comme d'authentiques chrétiens, c'est l'amour dans notre cœur. Et là, je suis en partie bloqué. Parce que qui peut aimer comme le Seigneur a aimé? Qui? Ah, mais il y a des textes de la parole de Dieu qui viennent à notre secours. Il est dit dans Romains chapitre 5, verset 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Il y a d'autres textes qui mettent en relief que nous ne devons avoir aucune dette. Par exemple, Romains chapitre 13, verset 8, dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5 et au verset 14, Paul dit très clairement que toute la loi est comprise dans ce commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous lisons dans Colossiens chapitre 3, verset 14, « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Et Jacques, au chapitre 2 et au verset 8, appelle l'amour la voie royale. Donc, c'est clair que la Bible met en relief que l'amour de Dieu doit être la deuxième essentielle caractéristique du chrétien, consacré. Oui, alors établissons une différence. Parce que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec ce que l'on peut constater dans le monde. Je crois vous l'avoir dit ici lors d'un certain passage. Dans certains clubs mondains, il y a plus d'amour, mais entre guillemets, parce que ce n'est pas l'amour de Dieu, que parfois dans certaines églises. Parce qu'il y a une amitié très forte, quelquefois dans certains clubs du monde. Et quelquefois, les chrétiens veulent imiter cet amour. Mais voyez-vous, l'amour de Dieu ne peut pas être compatible avec la tolérance. Ça peut vous surprendre. Mais quand dans notre cœur, nous sommes tolérants par rapport à certaines choses qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu, alors l'amour est banni de notre cœur. Dieu, au travers de Jésus, a manifesté un amour formidable pour le pécheur, mais une haine implacable pour le péché. Et la croix est une démonstration de la haine que Dieu a pour le péché. Donc il ne peut pas y avoir cette tolérance dans notre vie. Et quelquefois, eh bien, nous voyons cette sorte de mélange où finalement, sous prétexte de pouvoir dire que tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est mignon, alors on accepte n'importe quoi. Mais là où le Seigneur règne, eh bien, le péché ne doit pas avoir de place. Et surtout pas de place non plus pour les déviations doctrinales qui seraient une preuve même que nous n'aimons pas le Seigneur. Parce que aimer le Seigneur ne peut pas être séparé d'aimer sa parole. Sa parole est la vérité. Donc la parole de Dieu doit régner dans les cœurs et dans les vies. Dans le monde, cette tolérance-là, eh bien, est tellement forte, elle a une telle influence qu'elle a tendance aussi à rentrer dans l'Église. J'aimerais vous dire Le véritable amour n'est pas toujours celui qui nous pousse à caresser dans le sens du poil. Mais le véritable amour peut nous pousser parfois à reprendre. Et nous aimons notre frère. Lorsque, non pas avec un esprit de supériorité ou en se plaçant sur un piédestal, on va vers lui pour lui donner une leçon. Des fois, c'est cet esprit qui nous anime. Quand je vais le voir, quand je vais la voir, je vais lui donner une leçon, je vais lui faire comprendre, moi, certaines choses. Pas comme ça. L'amour de Dieu reprend. Par exemple, voyez-vous Nathan, qui a été envoyé vers David. Il y est allé avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. Mais à un moment donné, la parole est partie comme une flèche. C'était la démonstration de l'amour. Et il a dit, cet homme, c'est toi. Et nous avons besoin quelquefois que certains nous placent en face de certaines réalités, non pas pour nous briser, nous accabler, mettre un fardeau sur nos épaules, nous humilier. Il n'y en a qu'un seul qui peut nous humilier, c'est Dieu, et il le fait très bien. Mais nous avons besoin d'être placés en face de certaines réalités pour que, le reconnaissant, nous laissions le mal de côté et nous avancions selon le plan de Dieu. Si j'aime mon frère, alors je vais désirer que tout ce que Dieu veut pour moi, Dieu l'accomplisse aussi pour lui. Si j'aime ma sœur, je vais désirer que tout ce que Dieu a ordonné puisse se vérifier dans sa vie. Parce que c'est là le but que nous devons poursuivre. N'est-il pas écrit ? Exhortez-vous les uns les autres pour vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Nous pouvons être indifférents, nous pouvons venir tous les dimanches à la réunion, côtoyer notre frère, notre sœur, les uns, les autres, et puis finalement, comme dans un système religieux auquel nous nous habituons, eh bien, laisser faire les choses. Mais non, ça coûte l'amour, parce que parfois, dire la vérité, même avec amour, c'est un sacrifice. Et il faut payer cher. Cependant, le résultat peut être extraordinaire. Moi, je remercie le Seigneur de ce que, un jour, la vérité m'a été proclamée me concernant. Sinon, je ne pourrais pas être là ce matin pour remercier le Seigneur, ni pour prêcher. C'est là ce que nous devons retrouver dans l'Église. Suffisamment d'amour pour pouvoir nous laver les pieds les uns les autres. Pas nous faire des shampoings, mais nous laver les pieds. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le Seigneur nous brise parfois nous-mêmes d'abord, afin que nous puissions aussi aider les autres. Et là, j'en viens à un point. J'ai noté sur ma petite feuille comment manifester un amour visible. Comment le manifester ? Nous pouvons tout d'abord, ça c'est le premier point, reconnaître les torts que nous avons commis nous-mêmes contre quelqu'un. Et vous savez, mes frères et sœurs, c'est facile de le dire, mais c'est la chose la plus difficile à mettre en pratique. Je ne sais pas comment vous êtes. Mais demandez à ma femme, elle va vous dire qui je suis. Parce que vous, vous me voyez là, sur l'estrade. Mais reconnaître les torts, moi je reconnais, personnellement, c'est difficile. Il faut vraiment l'action de l'Esprit de Dieu pour que nous courbions notre tête et que notre cœur soit vraiment brisé. Si nous refusons de reconnaître nos torts personnels à l'égard de Dieu ou à l'égard d'un frère, d'une sœur, des membres de la famille, que sais-je, Si nous refusons cela, eh bien, c'est comme si nous portions atteinte à la consécration à Christ. Et l'Église, elle va pâtir de notre orgueil et de la dureté de notre cœur. Des fois, on se demande, pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ce que nous voudrions et nous souhaitons au plus profond de nous-mêmes voir s'accomplir au milieu de nous? Vous savez, nous cherchons toutes sortes de choses. Nous pouvons accabler le pasteur, les anciens, nous pouvons accabler qui nous voulons. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu, il connaît nos cœurs, vous savez. Et il ne se fie pas aux apparences. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est d'accorder le pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Écoutez la suite. Qu'ils le demandent ou qu'ils ne le demandent pas. Parce que des fois, nous en restons là. Et nous disons, ah oui, oui, mais moi, je suis prêt à pardonner, mais à condition que. Il y a toujours une condition. Et l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Ça, c'est difficile à avaler. Mais si nous ne pardonnons pas, nous savons aussi ce que la Bible déclare. Déjà dans la prière, hein, que l'on appelle le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, tu le dis comme une machine à répéter. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pense à tous ceux qui t'ont blessé, à tous ceux qui peut-être ont brisé ton cœur. Pense à certaines paroles qui se sont plantées dans ton cœur comme une flèche. Pense à tout cela. Mais la caractéristique, c'est l'amour dont parle Jésus quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Est-ce qu'il a aimé l'Église parce qu'elle était parfaite? Est-ce qu'il nous a sauvés parce que nous étions déjà exceptionnels? Non, n'est-ce pas? Donc, nous devons bien reconnaître que là, il y a encore une autre impossibilité. Comme nous l'apprenons en ce moment avec les méditations d'un certain frère, vous savez, la loi qui est souvent méprisée par tant de chrétiens, elle est là pour nous montrer ce que nous sommes. Mais la loi de Christ, elle va beaucoup plus loin que la loi de l'Ancien Testament. Parce que Christ a des exigences bien plus grandes. Mais, et c'est ça qui est formidable, c'est pourquoi je vous ai cité le verset Romains 5, 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a des moments où ça nous amène à un combat, où nous devons nous tenir devant le Seigneur, parce que nous entendons la vérité, et puis nous disons, oui c'est vrai, mais en même temps quelque chose nous dit ici, mais toi tu ne le vis pas, et puis si nous restons dans l'indifférence, nous perdons du temps, et en perdant du temps, nous nous trouvons en danger, parce qu'à n'importe quel moment, le Seigneur peut revenir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre. Cette fois, combattre à genoux pour que l'Esprit de Dieu triomphe et nous aide à nous en disant, ça y est, cette fois c'est la victoire. Peu importe qu'il me demande pardon ou qu'elle me demande pardon, moi j'ai pardonné. Ça, c'est la victoire de Dieu. C'est la caractéristique, deuxième caractéristique du vrai chrétien. J'en arrive à la dernière. Vous voyez, vous pouvez suivre les événements. Dernière caractéristique, loyauté indéfectible au Fils de Dieu. Je voudrais m'appuyer sur une expérience qui est celle de Pierre, puisque précisément il est là, dans le texte, cité lui aussi, et on sent dans son cœur qu'il y a des choses qui bouillonnent. Mais l'expérience de Pierre nous amène à comprendre certaines choses qui sont formidables pour chacun d'entre nous. Cette vérité, loyauté au Fils de Dieu, est plus implicite dans ce texte qu'explicite, c'est vrai. Mais justement, nous appuyons sur ce que Pierre a dit et comment il semblerait qu'il a manqué de loyauté. Oui, de toute évidence, il a fait preuve de lâcheté. Nous savons, d'abord, dans l'évangile de Luc, il est dit que Jésus a annoncé bien en avance sa mort. Et vous connaissez tous la réaction de Pierre. Et déjà, à ce moment-là, Jésus l'avait un petit peu repoussé d'un revers de la main et avait dit « Arrière de moi, Satan !» Parce que les pensées de Pierre étaient celles des hommes. Il s'opposait au plan rédempteur de Dieu. Et là, eh bien, Jésus vient de dire « Je m'en vais, vous allez me chercher, vous ne me trouverez plus. » Et Pierre, vous connaissez son tempérament, eh bien, il dit « Mais Seigneur, mais où vas-tu ? Où vas-tu ? Comment est-ce qu'on ne pourrait pas te suivre ? Mais moi, je suis prêt à te suivre. Où vas-tu ? » Et Jésus lui répond « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Retenez bien ceci. Maintenant, tu ne peux pas, mais plus tard, tu pourras. Souvent, je vous l'avoue, il y a un verset que j'ai mal interprété. Au verset 38, il dit, Jésus dit, « Tu donneras ta vie pour moi. » Au moment même où Pierre a dit, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Et moi, je mettais un point d'interrogation. « Tu donneras ta vie pour moi ? Tu vas me renier trois fois. » Mais ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Il dit, « Tu donneras ma vie pour moi. Tu vas la donner. » Mais pas avec la force que tu as maintenant. Et il lui dit ce qui va lui arriver maintenant, parce qu'il compte encore sur lui. Nous savons tous, et moi j'ai toujours trouvé étrange, que Pierre, lorsqu'il a été relevé par le Seigneur et qu'il a reçu le Saint-Esprit dans son cœur, se lève le jour de la Pentecôte. Écoutez bien, lui a renié son maître trois fois, comme Jésus le lui avait indiqué. Et vous savez ce qu'il dit dans sa prédication ? Il dit, vous avez renié le saint, le juste, vous avez renié Christ. Moi, si j'avais été dans le public, j'aurais dit, t'es un peu gonflé quand même. Hein? Parce que c'est lui qui l'avait fait. Eh oui, mais voilà, maintenant il a reçu une force. Avant, il était lâche. Maintenant, il est fort. Avant, il était capable de renier. Maintenant, il ne le peut plus. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Et l'Esprit de Dieu, c'est quoi ? C'est Christ qui est placé sur le trône de notre cœur. C'est Christ qui règne. Et quand Christ règne dans notre vie et dans notre cœur, alors, c'est plus possible d'être conduit comme un lâche. Réfléchissez bien, mes frères et sœurs. La lâcheté est souvent notre partage. Oh, je sais, vous n'allez pas renier le nom du Seigneur, je sais. Seulement quand on est en face de certaines choses qui sont la preuve même qu'une conduite n'est pas pure, n'est pas noble, ne peut pas glorifier le Seigneur, et que nous fermons les yeux en restant associés à cette chose-là, nous sommes des lâches. Il y a un moment où il faut prendre position pour la vérité. Ce n'est pas facile, mais Pierre l'a fait ici, parce que justement, malgré son caractère lâche, Dieu lui a communiqué cette force parce que Pierre était vrai. Vous savez, on peut être plein de défauts, mais il faut être authentique. Et ce sont les chrétiens authentiques qui peuvent être conduits au triomphe et sur un chemin de victoire où le Seigneur Dieu est toujours et continuellement glorifié. Cependant, je me suis posé quand même aussi quelques questions. Pourquoi ? Pourquoi, malgré les avertissements du Seigneur ? Eh bien, cet homme en est arrivé là. Bien sûr, le Seigneur l'a relevé, on n'en parle plus. Mais pourquoi ? Ça vaut la peine quand même que nous suivions ses pas. Première chose, il s'est trop vanté. Il s'est trop vanté. Il a dit, je te suivrai partout. Ce n'est pas de la vantardise, c'est cela. Mais Seigneur, je suis prêt à donner ma vie. Ça, c'est une promesse. Et la loyauté ne doit pas être sous forme de promesse. Elle doit se prouver dans certaines circonstances. Et lui, malheureusement, eh bien, il est resté dans un certain temps avec cette présomption, cette vanité personnelle. Et c'est la raison pour laquelle il a connu la chute. Deuxième erreur, il a trop peu prié. Vous savez, tout de suite après, Jésus se dirige vers le jardin de Gethsémané. Vous pourrez lire jusqu'au chapitre 16 de l'évangile de Jean et vous voyez tout le cheminement. Et quand Jésus arrive dans le jardin de Gethsémané, eh bien, il est, lui, là, cette fois, prêt à mener le dernier combat. Vous connaissez la lutte que Jésus a menée. Il avait besoin aussi que ses disciples soient à côté, en tous les cas, ces fameux trois qui toujours le suivaient, même dans les situations les plus pénibles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont endormis. Une fois, deux fois, trois fois. Et Jésus a été obligé de dire, ça suffit maintenant. Il a été seul dans le combat. Trop peu prié. Trop de choses sont le partage des uns et des autres dans ce monde, et particulièrement dans les situations que nous vivons maintenant. Et je reconnais que c'est si facile de négliger ce qui est pourtant essentiel dans la vie du chrétien. Trop peu prié. Heureusement que Jésus a prié pour lui. Vous connaissez la déclaration du Maître. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais écoutez la suite. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Frères et sœurs, réjouissons-nous, parce que Jésus dans le ciel, il nous représente et il intercède pour nous. Il connaît nos faiblesses. Et heureusement qu'il prie pour nous. Heureusement qu'il y a cette intercession de notre souverain sacrificateur. Qui tiendrait à l'heure actuelle où il y a tellement de choses lamentables, misérables, je dirais même horribles, pas seulement dans le monde, mais dans ce que l'on appelle l'Église. Heureusement que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Il y a le christianisme, mais il y a la véritable Église, qui est, elle, composée de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui mènent ce combat par la foi. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Trop prompt à agir. Il n'a pas prié assez, il s'est vanté, mais par contre, il a agi quand il ne fallait pas, comme nous, n'est-ce pas ? Nous avançons quand nous devrions rester tranquilles et nous restons tranquilles quand nous devrions avancer. Et quand est-ce qu'il a manifesté cette action stupide ? Eh bien, au moment même où alors ils étaient dans le jardin, la cohorte à la tête de laquelle se trouve Judas s'avance. Et précisément, Pierre qui ne peut pas supporter, n'est-ce pas, ce qui se passe, là on peut reconnaître la bonté de son cœur, eh bien, intervient. Et il y a le serviteur du souverain sacrificateur qui s'approche de lui. Et quelle opération chirurgicale! Moi, j'entends des fois les stratèges de guerre parler d'opération chirurgicale. Vous savez, il frappe, mais juste ce qu'il faut. Ben lui, c'est, je ne crois pas qu'il visait l'oreille, hein, il visait la tête. Mais c'est juste passé là, à côté. Heureusement que le Seigneur était là. Et le Seigneur a guéri, et il a dit, remets ton épée dans le fourreau. Voyez, mes frères et sœurs, trop prompt à agir, pas quand il faut, pas non plus comme il faut. Et le dernier point, il suivait de trop loin après. Quand la croix est devenue une réalité, vous savez que tous ont abandonné le Seigneur, à l'exception de Jean, qui lui s'est trouvé au pied de la croix. Et c'est lui qui nous a laissé ce texte. Mais Pierre, il a commencé à suivre de loin. Et quand on suit de loin, eh bien, il a commencé aussi à se chauffer au feu des païens. Les chrétiens qui ont tendance à suivre de loin, eh bien, ils ont aussi tendance à se réchauffer auprès de tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui est animé dans ce monde-là. Et c'est là où il est tombé et il a renié son Seigneur. Mais Jésus avait dit cela, quand même pas terminé sur une note négative. Et il avait dit, mais quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères. Vous voyez le miracle de Dieu dont nous pouvons tous nous reconnaître dans Pierre. Mais nous pouvons aussi avoir cette ferme assurance que le Seigneur n'est pas prêt à nous laisser tomber. Nous, nous sommes infidèles, mais lui, il est fidèle. Alors portons nos regards sur lui et que dans ces temps-là, nous puissions être loyaux d'abord envers le Seigneur, ensuite envers nos frères et nos sœurs qui ont la même vision et poursuivent le même but. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser le frère terminer par la prière.